Bienvenue dans les matins, le journal de 7h est présenté par Adrien Toffolé. Bonjour Adrien.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Une aiguille dans le bras, c'est l'image du week-end, le lancement symbolique de la campagne de vaccination contre le coronavirus en France, dans deux établissements de personnes âgées seulement. Avant une montée en puissance au mois de janvier, les EHPAD doivent maintenant s'organiser pour informer les résidents. Illustration en région parisienne.
En Israël, malgré la campagne de vaccination à grande échelle déjà lancée par le gouvernement, le pays n'a pas pu éviter un troisième confinement pour lutter contre un nouveau rebond de l'épidémie. Depuis hier, les sorties sont limitées, les commerces fermés. Reportage dans les rues de Jérusalem.
Et puis 2020, année des réformes reportées à 2021, assurance chômage, réforme des retraites, mais aussi loi en faveur du bien-être animal. Ce sera l'une des premières examinées par l'Assemblée nationale en janvier. Après ce journal, Hervé.
La question du jour, nous nous intéresserons à l'état de la contraception en France en cette journée anniversaire, puisque c'est un 28 décembre 1967 que fut promulguée la loi Neuwirth sur la contraception.
Les premières injections de vaccins contre le Covid-19 ont donc été administrées hier en France. Quelques personnes âgées et soignants en Seine-Saint-Denis et en Côte d'Or, sous l'œil des caméras présentes pour documenter ce moment historique, celui d'un premier pas vers un retour espéré à une vie normale. D'autres EHPAD vont suivre dans les jours et les semaines à venir. La première vague de vaccination massive ne commencera qu'à la mi-janvier. Il faut laisser du temps aux établissements pour s'organiser, faire passer une visite médicale aux résidents, mais d'abord les informer et recueillir leur consentement. Hélène Chevalier a assisté à une réunion d'information dans l'EHPAD Lumière d'Automne à Saint-Ouen, près de Paris.
Vous avez le noyau.
Sur un grand tableau blanc, le docteur Maude Michalou a fait un croquis pour expliquer comment fonctionne le vaccin ARN messager à une quinzaine de résidents.
On ne peut pas vous imposer de vous faire vacciner. Par contre, on est obligé de vous expliquer ce qu'on sait des effets secondaires et ce qu'on sait des bénéfices attendus.
Un exercice pédagogique pour répondre à des questions pratiques.
Est-ce qu'on fait une intramusculaire ?
Oui. On va le faire sur les fesses.
On va le faire dans le bras souvent.
Mais aussi à des interrogations plus politiques.
Dit qu'il y a une ségrégation entre ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'auront pas fait.
On ne peut jamais dire de façon sûre à 100% qu'il ne se passera jamais ça.
À l'issue de la réunion, Abdel s'avance vers la médecin pour lui dire qu'il se fera vacciner.
Parce qu'elle a été franche, elle a dit qu'il y a un risque, elle a été honnête, mais que c'est comme tout, il y a toujours un risque dans la vie.
L'EHPAD a été très touché lors de la première vague et a perdu près d'un tiers de ses résidents. Pourtant, Liliane, comme sa voisine, préfère patienter et voir comment les premières vaccinations se passent.
Ça, je ne changerai pas. Ils vont mieux vous attendre.
Et pour la médecin Maude Michalou, il ne faut pas précipiter les choses.
On va commencer par ceux pour qui c'est évident. Vous avez vu qu'il y en a pour certains, c'est une évidence, ils veulent le faire, ils filent de l'eau. On verra comment ça évolue aussi dans leur tête. Je pense qu'on a le droit de changer d'avis jusqu'à la dernière minute.
L'EHPAD pourrait vacciner ses premiers résidents dans la semaine.
Hélène Chevalier, le vaccin ne sera pas obligatoire, a répété Emmanuel Macron hier dans un message posté sur Twitter, tout en appelant à la confiance en la science et la raison. Un nouveau conseil de défense doit se tenir demain par visioconférence. Hier, Olivier Véran, le ministre de la Santé, laisse entendre qu'un troisième confinement est un scénario possible si la situation épidémique devait s'aggraver avec les conséquences des rassemblements familiaux de Noël. En même temps que la France et toute l'Europe qui a lancé ce week-end sa campagne de vaccination contre le coronavirus. Pour l'instant, le vaccin Pfizer-BioNTech est le seul autorisé dans l'Union européenne, mais d'autres ne devraient pas tarder à arriver, Laura Dulieu.
À commencer par celui des laboratoires Moderna, prêt et disponible selon Matignon. Il fait partie du portefeuille de vaccins dont l'Union européenne a commandé des doses. L'Agence européenne des médicaments doit rendre son avis début janvier. Ce vaccin Moderna, il est déjà autorisé et utilisé aux États-Unis et au Canada. Et puis on a appris ce week-end, visiblement, une grande avancée pour le vaccin des laboratoires britanniques AstraZeneca. Le groupe pharmaceutique affirme avoir trouvé la formule gagnante pour son vaccin contre le Covid-19 développé avec l'Université d'Oxford. Les autorités britanniques sont censées se prononcer dans les prochains jours pour l'autorisation. Ce vaccin-là fonctionnerait aussi avec deux doses, mais il peut être conservé dans des congélateurs standards, ce qui faciliterait quand même beaucoup la logistique. Autre avantage, son prix. Il serait vendu à prix coûtant, soit environ 2 euros la dose, tandis que celle de Pfizer coûte autour de 12 euros. L'Union européenne a passé pour l'instant 6 contrats avec Pfizer, Moderna et AstraZeneca, donc il y a aussi l'américain Johnson & Johnson, qui espère publier ses résultats en janvier pour une autorisation au premier trimestre 2021. Également, le duo franco-britannique Sanofi-GSK, dont le vaccin ne devrait pas être prêt avant fin 2021. Et enfin, l'allemand CureVac, lui, est dans la dernière étape de ses essais. Plusieurs centaines de millions de doses ont été précommandées à chaque laboratoire et Bruxelles est en négociation avec Novavax pour un septième contrat de 100 millions de doses. En tout, cela représente un potentiel de 2 milliards de doses pour toute l'Union européenne.
Laura Dulieu pour France Culture.
Voilà, et on reviendra sur cette campagne de vaccination avec le regard de l'historien et démographe Patrice Bourdelet. Ce sera à partir de 8h-20. Il est 7h05, la suite de votre journal, Adrien Toffolé, avec Israël qui vient d'entamer son troisième confinement.
Pour au moins 2 semaines, commerce fermé, interdiction des déplacements au-delà d'un kilomètre de son domicile, sauf pour faire ses courses ou se faire vacciner. Dans le pays, les nouveaux cas augmentent de manière exponentielle. Reportage à Jérusalem de notre correspondante Alice Froussard.
Quelques heures avant le début du confinement, les allées de Mamilla, le centre commercial de Jérusalem-Ouest, sont pleines à craquer. Les Israéliens profitent d'un dernier café ensoleillé et les distances de sécurité ne sont pas toujours respectées. Sassad, vendeur de vêtements, regarde passer la foule d'un air mi-affolé, mi-compréhensif.
All the people want to buy before the lockdown, so they go out.
Tout le monde veut faire du shopping avant le confinement, donc ils sortent. Tout le monde n'achète pas, mais c'est au moins pour prendre l'air. C'est la troisième fois qu'on va être confiné. On en est désolé, mais il n'y a rien à faire.
Un peu plus loin, dans un quartier connu pour ses bars, ses restaurants, les rues sont nettement moins remplies. Dans son magasin d'ameublement, Henri Azoulay, franco-israélien, l'avoue. Ce troisième confinement est morose et les répercussions de la crise sanitaire se sentent déjà depuis un moment.
Ça se sent ici, oui. Ça se sent surtout dans notre quartier où il y a beaucoup. C'est une zone très touristique. Donc quand on passe devant les hôtels et que c'est fermé, ça fait une peine terrible. Quand on voit les restaurants qui sont fermés, ça nous fait vraiment mal au cœur. Vraiment mal au cœur. C'est dramatique. Mais bon, on va être le premier pays à être entièrement vacciné. On va s'en sortir.
Comme lui, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est optimiste. Il espère que le quart des 9 millions d'Israéliens soient vaccinés en un mois.
Alice Froussard. À Wuhan, en Chine, la vie est quasiment revenue à la normale. C'est là, il y a un an, qu'apparaissait une mystérieuse pneumonie. Une ville de 11 millions d'habitants considérée comme le point d'origine de la pandémie. Notre correspondante permanente en Chine, Dominique André, s'est rendue là-bas à la rencontre de ses habitants qui, malgré la maîtrise de l'épidémie de Covid, ne vivent plus comme avant. Rendez-vous à 7h24. Pour le reportage de la rédaction. En Syrie, un an après les bombardements massifs dans le nord-ouest du pays, la situation des réfugiés est davantage fragilisée par l'épidémie de Covid, dans la région d'Idlib en particulier. Un couloir humanitaire passant par la Turquie permet de ravitailler les populations encerclées, mais dans les camps, l'avenir de toute une génération est menacé, Bertrand Galichet.
Depuis un an, dans cette région du nord-ouest de la Syrie, où 2,8 millions de personnes ont trouvé refuge, les bombardements du régime syrien ont laissé place à une crise humanitaire. Désormais, le coronavirus amplifie le calvaire des déplacés. Le docteur Raphaël Pitti, de l'Union des organisations de secours et des soins médicaux en Syrie.
20 000 personnes ont été contaminées, 3 médecins sont morts du Covid. Il était impossible de donner des consignes de confinement à la population qui vit pour la majorité sous tente. Se surajoute maintenant le froid qui est très intense. Nous manquons pour les enfants de chaussures, de vêtements, de couvertures et de chauffage.
Des conditions de vie pénibles et surtout l'absence de perspectives pour les jeunes qui n'ont connu que la guerre depuis 10 ans. Oussama Al-Hussein travaille sur place pour la même ONG.
Ils ne savent pas quoi faire. Il n'y a pas d'école officielle, pas de documents officiels pour qu'ils soient enregistrés en tant que citoyens. Pas de diplôme officiel. Donc que faire avec cette génération? C'est étouffant.
Une population prise au piège et sans espoir de solution politique dans cette dernière enclave aux mains des rebelles djihadistes.
En Centrafrique, comme on pouvait le redouter, des milliers de personnes ont été empêchées de voter hier pour élire leur président et leurs députés. C'est ce que rapportent des observateurs de l'ONU et des responsables locaux. Conséquence du climat d'insécurité qui règne dans le pays en proie à la guerre civile, les rebelles qui appelaient à ne pas aller voter et menaçaient de prendre Bangui se sont finalement tenus à l'écart de la capitale. Les premiers résultats partiels sont attendus le 4 janvier prochain.
La ministre La ministre des Armées, j'ai un chat dans la gorge, Florence Parly, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont attendus dans le Puy-de-Dôme.
Ils présideront l'hommage national aux trois gendarmes tués la semaine dernière à Saint-Just lors d'une intervention pour aider une femme victime de violences conjugales. Le quatrième militaire blessé par le tueur sera quant à lui décoré. Un premier coup d'œil à l'agenda législatif pour 2021. Parmi les réformes en préparation, on peut citer la réforme des retraites ainsi que celle de l'assurance chômage, mais aussi, moins clivante peut-être, une loi sur le bien-être animal, portée par les trois groupes de la majorité parlementaire. Elle sera examinée le 26 janvier prochain à l'Assemblée nationale. Le texte prévoit notamment la stérilisation des chats errants, l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques ou encore la prohibition de l'élevage de visons pour leur fourrure. Une loi censée répondre à une préoccupation croissante au sein de la population, Stéphane Robert.
Une loi pour améliorer le bien-être animal a déjà été examinée par l'Assemblée nationale en octobre dernier. Elle était portée notamment par le député mathématicien Cédric Villani, mais faute de temps,
mes chers collègues,
elle n'avait pas pu être adoptée.
Comme il est clair que nous ne pourrons pas voter ce texte,
vous avez je parlé compte six sur le minutes, gouvernement il faut conclure.
Pour inscrire à l'ordre du jour, dès qu'il le pourra, les travaux issus de ce texte en commission qui méritent de continuer à vivre. Je vous remercie.
Les députés de la majorité En Marche, Modem et Agir ont donc décidé de remettre l'ouvrage sur le métier et ont déposé un texte de loi le 14 décembre dernier.
Les principales propositions tournent évidemment autour de l'animal domestique.
L'Alsacien Olivier Becht préside le groupe Agir à l'Assemblée.
Ce sont également des interdictions d'avoir des animaux sauvages dans les cirques et dans les delphinariums, d'avoir des cétacés. C'est également l'interdiction des élevages de visons.
L'examen de cette proposition de loi est programmé le 26 janvier. Olivier Becht assure qu'elle ne viendra pas engorger un agenda parlementaire déjà bien chargé.
Il y a la séquence qui est réservée au gouvernement, mais il y a aussi des semaines qui sont réservées au Parlement. Et les groupes de la majorité ont souhaité faire cette proposition de loi. Donc ça ne prendra pas du temps sur le temps législatif qui était programmé pour le gouvernement à travers de grandes lois comme celle sur le séparatisme, le climat ou peut-être encore demain la dépendance.
Cette loi prétend répondre à une sensibilité croissante de la population sur le bien-être animal. Un sondage IFOP en août dernier montrait que 3 personnes interrogées sur 4 se disaient favorables à l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques ainsi qu'à la prohibition des élevages d'animaux pour leur fourrure. Et cette sensibilité de la population s'est traduite électoralement par un score surprise de 2,4% du parti animaliste aux élections européennes en 2019.
Stéphane Robert, le temps de ce lundi, 5 départements sont toujours en vigilance orange pour neige et verglas. L'Aveyron, le Cantal, la Corrèze, la Lozère et le Puy-de-Dôme. 4 départements pour vagues, submersion, le Var, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et la Corse du Sud. Le temps aujourd'hui sera nuageux ou pluvieux sur une grande partie du territoire, neigeux en montagne, quelques éclaircies sur le littoral méditerranéen et à l'est. Les températures ce matin évolueront entre 0 et 4 degrés en montagne. 4 également à Paris, Rennes, Lille, Tarbes, Montélimar, Strasbourg, 9 à Marseille et 13 à Ajaccio. Cet après-midi, les températures évolueront entre 2 et 11 degrés.
Merci Adrien Toffolet. Dans un instant, nous allons parler de contraception en ce jour anniversaire de la promulgation de la loi Neuwirth.